Il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel, et c'est le journal en français. Enfin, il y a un petit problème de micro, hein, Raphaël. Bonsoir à vous.
Il semble que le micro ait un peu du mal. Eh bien, on va
changer de place. Ça y est, on est là. Désolé pour ce petit incident.
Un petit faux départ.
C'est le journal en français facile. Merci de nous rejoindre. Et ce soir, je suis en compagnie, vous l'avez reconnu, de Sylvie Berruet. Bonsoir, Sylvie.
Bonsoir à vous.
Dans l'actualité de ce samedi 1er mai 2021, plusieurs dizaines de milliers de manifestants en France à l'occasion de la fête du travail, défilé de syndicats malgré le Covid-19. Des affrontements ont eu lieu à Paris entre la police et quelques manifestants.
Un nouveau vaccin approuvé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, contre le coronavirus. Elle autorise officiellement Moderna, et c'est une bonne nouvelle pour les pays les plus pauvres s'ils parviennent à obtenir les doses.
La Pologne risque de devenir un État non démocratique. C'est ce que craint le médiateur polonais des droits civiques, Adam Bodnar. Il reproche à l'Union européenne de ne pas être assez sévère à l'égard de Varsovie.
Et puis les dernières heures de Diego Maradona, ce sont les conclusions d'un rapport, cette longue agonie d'un rapport d'experts qui enquête sur la mort du footballeur argentin. Yelena Tomic nous en dira plus à la fin de cette édition.
Le journal, en français facile.
Ni la pluie, ni le coronavirus ne les empêchaient de venir manifester.
Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées en France en ce premier jour du mois de mai. Fête du travail et traditionnel défilé syndicaux. Le syndicat CGT en a compté 300 des défilés à travers le pays pour un total de 150 000 manifestants. Des heurts ont opposé les forces de l'ordre et quelques dizaines de personnes dans le cortège parisien. 34 personnes ont été interpellées.
Et puis le 1er mai est devenu également un rendez-vous important pour le Rassemblement national.
Comme son père Jean-Marie le faisait avant elle, Marine Le Pen a célébré à la fois la fête du travail et la mémoire de Jeanne d'Arc dans un discours destiné aux jeunes Français, un discours diffusé sur les réseaux sociaux. Aurélien Devernois.
Une héroïne de 17 ans qui sauve la France, le symbole de Jeanne d'Arc sonne comme une évidence pour Marine Le Pen dans son opération de séduction de la jeunesse.
Je vois dans l'extraordinaire précocité de Jeanne d'Arc l'occasion de souligner l'espoir que nous devons placer en notre jeunesse.
Mais plus que des symboles, ce sont des mesures concrètes que propose la candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle.
J'envisage de mettre en œuvre un ambitieux plan à destination de la jeunesse dès mon arrivée à la tête de l'État.
Au menu, l'encouragement à l'entrepreneuriat.
Nous ouvrirons à toute personne de moins de 30 ans qui créera son entreprise l'opportunité d'une part de bénéficier d'une dotation en fonds propres égale à ses propres apports, d'autre part, de bénéficier d'une exonération totale d'impôts sur les sociétés et d'impôts sur le revenu pendant 5 années.
Et à cette offensive sur les terres de la Startup Nation, chère à Emmanuel Macron, s'ajoute un volet social grignotant sur les plates-bandes de la gauche.
La garde d'enfants à domicile sera rendue déductible à 100% de l'impôt sur le revenu et l'État investira massivement dans la construction de nouvelles places en crèche.
Moins de discours identitaires et plus d'aide à une jeunesse première victime de la crise économique du Covid. Marine Le Pen veut élargir son socle électoral. En 2017, elle avait déjà séduit plus d'un quart des 18-34 ans.
Aurélien Devernois. La fête du travail, hein, célébrée également dans le reste du monde.
Et en Turquie, la police a interpellé plus de 200 manifestants à Istanbul. Les autorités turques affirment que des syndicats qui n'avaient pas été autorisés à défiler ce 1er mai sont tout de même descendus dans les rues de la ville et ont ignoré les appels à la dispersion.
Et ce 1er mai est également une date clé en Afghanistan.
Oui, c'est aujourd'hui que commence officiellement le retrait intégral des troupes américaines. Un départ négocié avec les talibans par Donald Trump et confirmé par son successeur Joe Biden. Ce sera progressif. Le retrait doit s'achever à une autre date importante, le 11 septembre prochain, jour du 20e anniversaire des attentats de 2001.
La Pologne risque de devenir un pays non démocratique, avertit le médiateur polonais des droits civiques.
Adam Bodnar dirige l'une des dernières institutions du pays à ne pas être encore sous le contrôle du parti Droit et Justice au pouvoir depuis 2015. Et il reproche à l'Union européenne de réagir trop lentement aux violations de l'état de droit en Pologne. Un constat que partage Paul Gradwol, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Les propos d'Adam Bodnar aujourd'hui ont une valeur particulière pour la raison suivante. Il était à la tête de la dernière institution publique qui n'est pas sous la coupe du parti Droit et Justice. Et donc, le fait qu'il doive quitter son poste parce qu'il a fini son mandat met ce pays dans une situation encore plus tragique, car il n'y aura pas cet ultime contrepoids. Et ceci nous renvoie à un appel qu'Adam Bodnar et tous les autres membres des organisations qui veulent résister à cette prise du pouvoir total par le PiS font en direction de l'Union européenne. Nous sommes aujourd'hui dans une situation tragique parce que même si le Parlement européen joue bien son rôle et les gouvernements européens et la Commission ont cédé face à la Hongrie et à la Pologne au moment du budget. Ils n'ont pas imposé le respect de l'état de droit et donc et en Pologne et en Hongrie, les prochaines élections législatives seront préparées en l'absence de démocratie dans quelque chose qui ressemble de plus en plus à la Russie.
New Delhi restera confiné une semaine de plus.
La capitale indienne prolonge la mesure en raison de la flambée de cas de Covid-19. Dans cette ville qui compte plus de 20 millions d'habitants, près d'un test sur trois est positif, laissant craindre que le nombre réel de porteurs du virus soit bien plus élevé que les chiffres officiels.
Et en France, le nombre de patients en réanimation continue de descendre ce samedi.
Près d'une centaine de personnes en moins dans les services de soins intensifs des hôpitaux ce soir.
Et c'est dans ce contexte qu'un vaccin supplémentaire a été validé par l'OMS.
L'agence de l'ONU pour la santé donne son feu vert à Moderna, comme elle l'a fait pour les vaccins Janssen, AstraZeneca ou Pfizer. Pour les pays riches qui ont leur propre système d'homologation, ça ne change rien, mais cette décision devrait aider les pays les plus pauvres à lancer leur campagne de vaccination, à condition, bien sûr, qu'ils puissent mettre la main sur des doses. Jérémy Lange.
L'Union européenne, le Royaume-Uni, Israël, Singapour, dans tous ces pays, on n'a pas attendu le feu vert de l'OMS pour utiliser le vaccin de Moderna. Aux États-Unis, plus de 100 millions d'Américains ont reçu une dose du vaccin. Si l'OMS a mis autant de temps à le valider, c'est surtout parce que Moderna reste une petite structure qui n'avait jamais développé de vaccin auparavant. Margaret Harris est la porte-parole de l'agence.
Il y a des entreprises qui savent très bien quel genre de données nous leur demandons, quel format. Et il y en a d'autres qui sont moins familières avec ce processus. C'est la raison pour laquelle certains vaccins mettent plus de temps que d'autres avant d'être homologués. Bien sûr, les pays peuvent décider d'utiliser des vaccins avant cela, mais c'est l'OMS qui donne les recommandations générales et nous aimerions que les pays les suivent.
La décision de l'OMS ne devrait donc pas changer grand-chose dans les pays riches qui ont massivement commandé du Moderna. C'est différent dans les pays pauvres, puisqu'ils pourraient désormais obtenir des doses de Moderna via le système COVAX de partage de vaccins de l'OMS. Il tourne aujourd'hui au ralenti depuis que l'Inde a décidé de suspendre les exportations du vaccin d'AstraZeneca qu'elle produit. Une perte sèche pour COVAX que l'arrivée potentielle de dons de Moderna aura bien du mal à combler. Jérémy Lange, Genève, RFI.
Et puis le Portugal, lui, a enregistré une journée blanche. Après 6 mois d'état d'urgence et un hiver meurtrier, le pays n'a enregistré aucun décès dû au coronavirus hier.
Diego Maradona est mort après une longue agonie.
C'est la conclusion de la commission médicale chargée d'enquêter sur la mort du champion de football, décédé le 25 novembre dernier. Selon ses experts, Maradona a passé les 12 dernières heures de sa vie abandonné à son sort et avec un traitement inadéquat, déficient et imprudent. Yelena Tomic.
Que s'est-il donc passé dans les heures qui ont précédé la mort de Maradona le 25 novembre dernier? C'est ce qu'ont cherché à comprendre les 20 experts, dont des médecins légistes qui ont pratiqué l'autopsie, dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet argentin. Le document de 70 pages fait état de manquements graves de l'équipe soignante. Le footballeur argentin aurait commencé à mourir au moins 12 heures avant d'être retrouvé sans vie. Autrement dit, il aurait enduré une période d'agonie prolongée sans recevoir de soins adéquats. Compte tenu du tableau clinique et de son mauvais état général, l'ancien champion du monde aurait dû être hospitalisé. Il aurait eu de meilleures chances de survie, ajoutent encore les experts. En tout, 7 personnes ont été mises en examen. Une psychiatre, un psychologue, des infirmiers et le médecin personnel de Maradona, le neurochirurgien Leopoldo Luque. Il risque de 5 à 15 ans de prison pour abandon par négligence ou homicide involontaire.
Yelena Tomic, c'est la fin de ce journal. journal en français facile. Merci Sylvie Berruet.
Merci à vous.
Journal que vous pouvez réécouter sur le site savoir-au-pluriel.rfi.fr. Ce dimanche,